on va accueillir Souila, parce qu'elle nous attend depuis tout à l'heure. Souila qui est dans le 95. Quelle ville du 95? Quelle ville du 95, Souila?
Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous. Alors, petite rectification, 94, et la ville, la Cuambrie, voilà, donc jolie petite ville du 94.
Clochette pour Solal.
Ouais. Rangez la bouteille, Solal.
Alors, on vous écoute. Vous m'avez l'air en grande forme, c'est bien, tant mieux.
Alors, sincèrement, très bonne journée, très bonne fin de journée, très bonne nouvelle. Personnellement, au travail et tout, donc Dieu merci, comme on dit chez nous, Alhamdoulilah. Voilà,
tout simplement.
Je voulais rebondir par rapport au sujet de ce soir, et notamment l'égoïsme dont fait preuve, excusez-moi, je vais peut-être en faire bondir certains dans le studio, l'égoïsme de certains.
Ouais.
À un moment donné, je suis tout à fait d'accord qu'on doit revendiquer, je suis représentante du personnel.
Ouais.
Je suis au CSE de ma boîte, je défends les droits de mes collaborateurs, de mes collègues.
Ah oui, vous parlez de grève, d'accord.
Non, pas du tout. Alors, attendez. Moi, je parle pas du tout parce que je suis fixe patron. Ouais. Le travail, j'ai vu mon père ne jamais prendre de vacances.
Ouais.
D'accord. Mon père, il a tilté qu'il y avait un moment où il fallait qu'il freine. Le jour où ma grande sœur allait se marier, il s'est dit, j'ai loupé quelque chose peut-être. À ce moment-là, il s'est dit, faut peut-être que je mette un petit frein, mes enfants, j'ai peut-être loupé quelque chose.
Oui.
Mais mon père, il nous a appris le sens du travail. Il nous a dit, tu n'as rien sans rien. Si tu ne te lèves pas le matin, il nous disait cette phrase, si je ne me lève pas le matin pour lever le rideau, personne ne le fait pour moi. D'accord. Donc quand il nous emmenait en vacances, on est quand même une fratrie de 6, plus mes parents, plus ma mère, je veux dire.
Donc c'est coûteux.
Il nous emmenait en vacances, il nous payait tous les ans des vacances en Algérie. D'accord. Il nous déposait, il revenait le pauvre pour travailler. D'accord. Il revenait nous chercher. Il profitait pas de ses vacances. Donc quand j'entends que certaines personnes qui ont du travail, parce qu'on va pas se mentir, dans le monde d'aujourd'hui, le travail devient une denrée rare.
Moi, je suis contente que vous parliez comme ça, ma chère Souila. C'est bien.
Moi,
c'est
je
bien.
Vous le dis clairement.
Mais oui.
J'ai des idées, même au sein de mon groupe. Des fois, j'en fais bondir certains, mais je suis désolée. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est content d'avoir ce qu'on a et on espère avoir plus. Si on arrive à garder ce qu'on a, nos conditions de travail, ce serait super. Déjà, ce serait une bonne chose. Avoir plus, c'est toujours mieux. Mais l'humain est un insatisfait. Ce n'est pas possible.
C'est vrai.
Les fonctionnaires, je suis désolée. Au niveau de votre travail, on ne va pas dire que vous êtes... Je connais pas dans les services comment ça se passe.
Ouais.
Déjà, dans l'administration, en soi, c'est très compliqué. Je le sais. Parce qu'une personne qui est là,
moi, je sais pas.
Le petit chef, il est là, c'est lui qui dirige tout le monde. Et pour le bouger, il faut se lever tôt.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc, ces personnes qui se permettent de bloquer les aéroports, alors que je peux vous dire, aujourd'hui, mes collègues sont partis aujourd'hui en congé. D'accord. Ils étaient tous heureux de partir parce que.
Bah voah, voilà.
Oui, on est d'accord.
Merci pour ce coup de gueule, Souila.
Je suis désolée.
C'est bien.
Moi, je suis le représentant du personnel.
Ouais.
En plus.
Je suis. À un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut maintenir ce qu'on a déjà? Et après, une fois qu'on a une stabilité, parce qu'on ne va pas dire que dans le pays, on soit super stable, il suffit de regarder notre politique. Ils nous font honte. On ne va pas se mentir. Ils nous font honte. À un moment donné.
Il y a Abdeslam Itesh qui souhaite vous répondre. On va laisser. Merci, Souila, merci beaucoup.
Avec grand plaisir et merci à toute l'équipe.
Merci. Moi, je vous dis bravo.
Vous
avez bien raison. Là, parce qu'on a besoin de.
Voilà, besoin,
c'est un coup de gueule, c'est bien. J'ai aussi un message avant de vous laisser, Abdeslam Itesh. Enfin, j'en ai pas mal, mais là, il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est JP, qui est un taxi. Donc, il bosse d'arrache-pied, lui aussi. Et il dit il faut aller taxer les riches. C'est les riches qui doivent payer. Et vous avez raison, JP. JP nous écoute.
Je suis
c'est un fidèle auditeur.
Il faut taxer les riches, mais ça ne sera pas suffisant.
Dans son taxi. Merci JP, vous avez raison.
Il faudrait qu'on arrête de donner d'argent à l'Ukraine aussi, 4 milliards.
Alors qu'est-ce que vous répondez à celui-là?
Non, juste lui dire qu'elle a raison. Que, alors moi, je suis chef de service dans une petite mairie. Je gère le personnel le moins bien payé de la collectivité. C'est le service entretien du personnel qui n'est pas qualifié, qui est vraiment. au SMIC, quoi. Ouais. Et qui s'en sort pas. Vous savez, moi, les échanges que j'ai avec mes agents, essentiellement féminins, femmes monoparentales, toutes les cases sont cochées, qui sont dans une vraie difficulté. Et elles me disent, vous savez, monsieur Itache, 50 euros de plus, ça me changerait la vie.
Bien sûr.
Vous n'avez même pas idée. Je n'arrive pas à finir le mois. Eh bien, 50 euros de plus, je pourrais finir le mois. Ouais. C'est vous bien dire sûr. Le niveau de détresse. Et ils ne sont pas dans le confort, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont même pas les moyens de
l'argent. Mais bien sûr, on a des cas de figure. Je vais en reviens un petit peu à moi également. Mon mari est fonctionnaire. Il s'éclate dans son boulot. Il travaille. Il dit, mais vraiment, on est bien. Je connais quelqu'un d'autre qui travaille au service jeunesse d'une ville. C'est une catastrophe. Et pourtant, c'est une personne qui investit pour la jeunesse. C'est une personne qui a une association pour la jeunesse, qui fait des actions pour la jeunesse. Mais on lui a attribué un chef sorti de nulle part qui a décidé de faire le petit chef.
Ça existe aussi.
Et là, bon. Voilà. Et donc là, vous mettez un malaise dans les. À un moment donné, il faut vraiment voir d'où vient le vrai problème.
Ouais. Merci d'être intervenu sur
la LGBT. Avec grand plaisir, merci à tous.
Merci pour votre intervention.
Merci.
Avec beaucoup d'enthousiasme, le cri de la plume.
Le cri de la plume sur Beurre FM.
Ouais, vous savez, le rendez-vous du vendredi. Tous les vendredis, c'est Maître El Professeur. Pas maître, El Professeur Docteur Majid Soussine. Comment ça va, mon cher docteur?
Ça va, mon cher. Je ne sais pas pourquoi vous obsédez à vouloir faire de moi un avocat.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas.
Faites de moi un crooner.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Je vous lance parce que votre billet d'humeur, vous avez décidé de le consacrer autour, évidemment, du premier personnage de l'exécutif, c'est-à-dire François Bayrou, celle qui se fait taper et cogner dans tous les sens, Rachida Dati, hein, et notamment le laxisme de la justice, ça c'est vous aussi, et puis le réchauffement climatique. Ça en fait beaucoup, hein, dans votre tchouk-tchouka là, hein, si je peux me permettre l'expression.
Bah une bonne tchouk-tchouka, ça fait du bien quand il fait chaud.
Il est beau ce docteur, il est trop fort. On vous écoute.
Bah écoutez, mon cher Adit, je sais que vous êtes en sueur avec deux disques luisants sous les aisselles.
Il me fait rire ce docteur.
Savez-vous pendant ce temps-là, en Uruguay et en Argentine, 15 personnes sont mortes dans une vague de froid inédite. De quoi donner raison à notre cher Trump, le perforateur de l'Arctique et de l'Antarctique, et à Bruno Retailleau qui co-signe une tribune irritant et invitant à suspendre les financements publics pour les énergies renouvelables, déclenchant ainsi l'ire de notre président vénéré. Celui-ci, qui se fâche quand même beaucoup moins quand le ministre de l'Intérieur ressuscite le contrôle aux faciès en lançant la chasse aux sans-papiers, lui a rappelé qu'il était juste ministre de l'Intérieur et qu'il devait s'occuper de son petit jardin. Mais c'est dire tout de même qu'il a oublié que M. Retailleau était surtout président de LR, ce qui, soit dit en passant, est un poste beaucoup plus stable que ministre dans le gouvernement Bayrou, déjà en soins palliatifs, avec une euthanasie promise à l'automne. Bayrou a choisi de supposer poids lourd dans son gouvernement. Il faut donc ne pas s'étonner qu'il roule pour eux-mêmes à fond la démagogie en se préoccupant de l'intérêt général autant que Netanyahou se préoccupe de la mortalité infantile palestinienne. Quel dommage, en tout cas, que la France ne soit pas le Mali, où le président Goïta, général de Médier, président de transition au départ, est désormais promu par ses amis au titre de président à durée illimitée, puisque son mandat est dit renouvelable autant de fois que nécessaire. Imaginez la même situation chez nous, mon cher Adil. Les choses seraient claires, au moins. Ici, nous sommes victimes, dit-on, du gouvernement des juges, qui vont nous priver, comptez bien avec moi, mon cher Adil, de Rachida Dati,
vous avez raison,
qui a oublié de déclarer 170 000 euros de joaillerie dans sa déclaration de patrimoine et qui reste suspendu à une décision de justice dans l'affaire du pourboire de 300 000 euros de Renault, sans parler de l'autre pourboire que lui a octroyé généreusement GDF. De Laetitia Avia, ancienne députée, condamnée cette semaine pour harcèlement de ses collaborateurs. Vous vous souvenez peut-être d'elle, Adail. C'était celle qui avait mordu l'oreille d'un chauffeur de taxi un peu revêche qui ne l'avait pas reconnu.
Si. On rappelle très bien.
Trois de Nicolas Sarkozy. Le seul président qui savait utiliser autre chose qu'un karcher pour nettoyer les témoins gênants, en inventant la guerre humanitaire pour éviter d'avoir à rembourser sa dette. 4. De la meilleure d'entre nous. La blonde Marianne, ou plutôt Marine, qui risque peut-être de ne pas pouvoir gagner cette présidence que l'incompétence de tous lui promettait pourtant. Mais qui sait, mon cher Adil, nous nous consolerons peut-être par un bel âtre, hein, qui a un doux prénom que vous connaissez, Jordan, qui fait honneur à cet adage, « Sois beau et tais-toi ».
Oh là là, on peut l'applaudir. Hein.
Bravo.
Bravo. Ah, bravo, docteur, bravo, c'est limpide, c'est satirique, c'est... tous les ingrédients sont réunis, hein. C'est bien, bravo.
Bah, c'est ça une bonne chouk-souka.
C'est ça, vous avez raison, c'est vrai, c'est bien rendu. À la semaine prochaine, vous êtes toujours là la semaine prochaine, on compte sur vous.
Écoutez, moi, j'ai pas les moyens de payer des vacances.
Hein. Oh. Ah, l'avocat, Maître Libeskind, vous avez entendu ce qu'il vient de vous dire?
Il faut faire plus de patients, docteur.
Il faut faire plus de patients, mais écoutez, ça, c'est une vision de la médecine qui n'est pas la mienne.
C'est un humaniste, tac tac.
C'est pas un industriel de la médecine.
Ah non, pas du tout. Reste voilà. Un artisan.
Il faut augmenter les tarifs alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ça c'est pas possible. Écoutez, en plus moi je suis salarié, je suis hospitalier, donc je gagne pas d'argent.
Ah bah oui, alors là je comprends maintenant.
Ouais. Donc, ouais. Merci docteur Majid Soussine, à la semaine prochaine sans faute. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite après. On va parler de la situation à Gaza, avec notamment la déclaration de Benjamin Netanyahou qui promet d'éliminer le Hamas, mais oui, très bien, jusqu'à la racine, et assure qu'il y aura plus de Hamastan. Bon, je crois que bon. Ça fait sourire, je sais pas, mais bon, et on en parle tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la rediff. La rediff. La rediff. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, dernière ligne droite, justement, avec vous, et vous êtes au taquet, parce que oui. Certains d'entre vous, en tout cas pas mal, s'apprêtent à aller vivre des vacances, mais n'oubliez pas d'écouter Beurre FM, les amis. Oui. Non, Augustin, c'est
merci.
Vrai
ouais. Merci, si.
Moi, je me surtout avec les téléphones, en téléchargeant l'application, même à l'autre bout du monde.
Maître Libeskind, vous êtes d'accord?
Bien sûr, Beurre FM, c'est toute l'année qu'on l'écoute.
Fab, il est par exemple, Maître Libeskind, il est là jusqu'à 20 juillet. Il lâche pas l'affaire.
Ouais, toujours.
Là, voilà, au bord de la piscine.
Au bord de la piscine. Voilà. Je voudrais qu'on parle de la situation à Gaza, notamment, alors, faire un tour de table, vous écouter. Alors, il y a, effectivement, peut-on croire encore à une trêve entre Israël et la Palestine et, et Gaza et le Hamas, en tout cas, d'accord, entre Israël et le Hamas, pour être précis dans cette trêve.
Entre Tsahal et le Hamas, pour le coup.
Oui. Je vous laisse évidemment dire comme vous l'entendez, mais surtout moi, ce que je veux vraiment qu'on avance, parce que là, moi, je suis très préoccupé, notamment quand je vois cette déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahou, quand il dit, il promet d'éliminer le Hamas jusqu'à la racine, et il assure qu'il n'y aura plus de Hamastan. Abdeslam Itach.
Écoutez, on connaît le personnage, et évidemment, avec toute la malveillance qui le caractérise, mais vous faites bien d'en parler à Adil Farkan, parce que d'abord, vous savez, notre silence nous rend complice, et qu'on a le devoir de parler de la Palestine. Je le fais souvent, et vous le savez, Adil, à chaque fois que je viens, même en dehors, je vous le dis, voilà, parlons de la Palestine, il ne faut absolument pas minimiser cette situation. Mais aujourd'hui, de quoi on parle? On parle d'un apartheid qui est alors, un apartheid depuis 16 ans, puisqu'il y a eu un blocus, et encore aujourd'hui le blocus existe. Rappelez-vous, la flottille où Rima Hassan avait tenté, des eaux internationales, de rentrer à Gaza, qui n'est pas un territoire israélien, eh bien elle a été arrêtée, menottée, alors qu'elle était dans les eaux internationales. Ce que je veux juste dire, c'est que justement cette accusation de génocide, bien que lourde, elle est vraiment fondée sur des éléments concrets, et du coup je regarde notre avocat qui est juste en face de moi. D'abord, la première chose, le ciblage systématique de civils, d'enfants, d'hôpitaux, c'est déjà un point concernant le génocide. Les déclarations publiques de responsables israéliens, on peut les retrouver, il y a pléthore de déclarations appelant à écraser Gaza, et je ferme les guillemets, anéantir les Palestiniens, et vous pouvez retrouver ces propos tenus de la bouche de certains leaders de l'entité sioniste, et l'absence de volonté de permettre aux populations de survivre, de soigner ou même de fuir. Quand on se retrouve dans un premier temps, vous savez, on employait souvent le terme de prison à ciel ouvert, aujourd'hui moi je vous parlerai de cimetière à ciel ouvert, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve baladé, alors l'armée la plus morale du monde qui somme les personnes de bouger ou de mourir, sachez juste une chose, c'est qu'en Palestine, à Deir Farkan, il n'y a pas d'endroit safe. Quel que soit l'endroit où vous êtes tué par un sniper, ou vous avez une bombe qui vous tombe sur la tête.
Augustin Varguet, on fait un tour de table.
Tout ce qui est dit est vrai. Je peux rajouter qu'en plus des civils, les humanitaires, les journalistes sont bombardés, sont tués, font plus leur travail. Donc les reporters d'images ont beaucoup de difficultés à donner de la réalité du terrain. Donc il y a des vidéos, heureusement. Il y a quelques journalistes qui ne sont pas bombardés, qui peuvent renvoyer des images. Donc effectivement, je souscris tout ce qui a été dit. Effectivement, je pense qu'il veut éliminer tout un peuple. Derrière l'élimination du Hamas, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. C'est que derrière, il y a un holocauste à Gaza.
Faut pas employer des mots comme ça.
Non, je sais très bien. J'ai sous-pesé ce que j'ai dit. Je sais très bien. Il y a un holocauste, c'est l'élimination de tout un peuple.
Non, mais
il y a
un camp de concentration.
Il y a une élimination.
Il y a une élimination. Qu'ils ne soient pas d'accord, c'est son opinion.
Évidemment.
Mais il dira pourquoi.
Mais il ne tient pour vrai ce qu'a vérifié pour tel. Ce qui se passe sur le terrain. C'est une élimination de tout un peuple. Je suis désolé, on tue des bébés jusqu'à des personnes âgées, des humanitaires et des journalistes. C'est quoi? C'est quoi, en fait? C'est quoi?
Maître Libeskind, c'est juste
Maître
David Libeskind, vous lui répondez.
Alors, j'aurais bien voulu que tu aies la même indignation à l'égard du peuple afghan. Rappelle-toi, en fait, la France a participé avec les États-Unis à une coalition militaire,
évidemment,
qui a massacré beaucoup de civils.
Là, on parle de Gaza, on parlera d'Afghanistan.
Non, je suis d'accord, si vous voulez. Et d'autres conflits qui existent.
Ne dévions pas.
Et d'autres conflits. Moi, je ne pense pas, en fait, que. Netanyahou, je ne pense pas qu'il cherche à éliminer la population. Non, mais attends, je t'ai laissé parler la population de Gaza. Je tiens à préciser que quand même, qui a déclenché les hostilités en premier, c'est le Hamas.
Et alors,
Laisse-moi finir. Moi, je pénalise aussi par celle que la tienne. Qui a déclenché en fait les hostilités le 7 octobre, c'est le Hamas. Après, je conçois.
On parle de la Nakba.
Là, je conçois, en fait, tu m'as interpellé sur le droit, mais pour l'instant, le droit, il parle d'un risque génocidaire. Là, tu fais. En fait, tu as mis en avant les arguments.
C'est pas un mot militant.
Je t'ai pas interrompu,
c'est super pénible. Oui, mais
tu as mis en avant les arguments qui avaient été reçus par la Cour internationale de justice. Pour l'instant, puisque tu parles.
Donc, on peut continuer
là-dessus. Moi, je suis juriste. Oui. Pour l'instant.
Donc, on peut continuer.
Alors, pourquoi l'Holocauste, ça vous gêne? Maître David
Libeskind.
Augustin Varguet parle d'un Holocauste.
Bien sûr.
Attendez. On pose la question. Pourquoi?
L'Holocauste, en fait, ça renvoie à la Shoah. Parce que là, Hitler avait vraiment, en fait, comme objectif, en fait, d'éliminer les Juifs. Non, mais ça, c'est. Voilà.
C'est pas un terme monopolistique à la Shoah.
Documenté.
Oui, d'accord.
Là, pour l'instant, la Cour de justice ne s'est pas prononcée en tant que telle.
Soyons rigoureux dans le droit international.
Bien sûr.
Et dans les mots aussi.
Voilà. Ouais. Après, effectivement, je suis complètement d'accord que la défense, la riposte, au fil des mois, a été complètement disproportionnée. Ouais. On ne massacre pas des civils.
Donc c'est plus un risque génocidaire.
Voilà.
C'est le cas. C'est un holocauste.
Je trouve ça
l'élimination de tout un peuple.
Non.
On est en train d'éliminer tout un peuple.
Il y a combien
de l'enfant, du gamin, du nouveau-né jusqu'au vieillard.
Tu es aussi sur un registre complètement émotionnel. Je te rappelle que après la Seconde Guerre mondiale, on a aussi tenté d'éliminer.
Vous êtes sur un registre de mauvaise foi.
Je te rappelle quand même. Voilà, je rappelle après 45. Après,
très bien.
Vous ne parlez jamais en fait de la source du conflit, d'accord?
On a déjà parlé dans notre débat.
Moi, ce qui me surprend en plus, moi, ce qui me surprend dans la bouche d'Augustin Vax, c'est qu'en plus, c'est pas un homme de gauche qui le dit.
Si,
c'est...
à la base. Si.
Là, il est pas le
gauche. Ah, si,
il est
plutôt centriste pour moi.
Oui, oui, oui.
Mais centriste, c'est un droit
plutôt de gauche à la base.
C'est un homme de droite.
Le centre-gauche existe.
Non, c'est un entrepreneur.
Vous permettez? Vous avez fini ou pas votre propos
de gauche? Oui, en fait, voilà. Moi, je suis d'accord que la réponse est complètement disproportionnée.
Vous l'entendez?
C'est que malheureux. Mais non, mais.
Attendez.
Et que Netanyahu est un criminel.
Exagéré. Parce que son micro a été interrompu. Attendez, son micro a été interrompu. Il n'y a pas de sabotage, je le rappelle tout de suite. Je vous redonne la parole. Non, mais là, ça a été interrompu. Oui, parce que c'est du direct. Hassan, attendez, Hassan, on ne l'a pas entendu. Hassan Benbarek.
Pour le terme holocauste, bon, c'est un mot grec qui signifie en fin de compte consumé par le feu. Qui était donc une appellation qui avait été utilisée pour les populations essentiellement juives en Europe qui ont subi une extermination. Donc voilà, ça c'est pour resituer la chose. Mais en ce qui concerne Gaza actuellement, bon, moi je suis peut-être dans une position en me disant, bon voilà,
vous aviez tapé
on n'a pas tellement d'impact. On n'a pas tellement d'impact.
On s'en souvient.
Oui, voilà. Et on n'a pas tellement d'impact sur ce qui se passe actuellement. J'entends qu'il y a peut-être potentiellement une trêve de 60 jours qui va être peut-être signée, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais ce qui m'a le plus quand même peiné ces derniers mois, hein, depuis le temps que ça dure, c'est de voir que des gens sont assassinés, il y a plus de 600 personnes qui sont mortes, simplement parce qu'elles allaient chercher de la nourriture.
Oui, ça c'est clair. Ouais.
Et ça, si vous voulez, c'est le summum de...
C'est le summum de l'horreur.
C'est-à-dire que des gens qui ont faim... essayent de se nourrir, viennent chercher de la nourriture,
c'est pas un crime de guerre.
Et là ils se font liquider.
C'est un crime de guerre.
C'est quoi?
Et là, je trouve que c'est le summum de l'horreur.
Je redonne la parole parce qu'il a son micro.
Moi, ce que je fais,
il a eu un souci.
J'ai toujours eu cette ligne de conduite. J'ai toujours été en fait partisan de la riposte israélienne suite aux attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. Après, j'ai toujours gagné la même ligne. La défense militaire d'Israël est complètement disproportionnée. Après, je ne parlerai pas de génocide, parce que c'est un terme chargé d'émotions et chargé d'histoire.
Le terme génocide, c'est pas le monopole d'une histoire.
Génocide, c'est quoi? 40 000 Il y a combien
de... C'est en fonction du nom qu'on voit le génocide.
L'élimination
d'un peuple. Génocide, c'est l'élimination d'un peuple. On est en train d'éliminer un peuple.
À l'heure actuelle, tu peux pas dire qu'il y a une élimination d'un peuple.
Ah bon? Juste des meurtres en série, on pourrait faire passer dans fait entrer l'accusé.
T'es en train de faire du révisionnisme là.
Non, c'est toi qui fais du révisionnisme.
Parce qu'en fait, être dépositaire du mot holocauste, et je remercie mon co-débatteur Hassan qui rappelle que c'est un mot grec qui justement. Oui, non, mais il n'appartient pas au peuple juif, ce mot-là. C'est un drame de l'histoire que l'on déplore, évidemment, et que l'on condamne, et que de la même manière, eh bien, moi, ce qui me gêne chez toi, c'est que tu n'as pas le courage de dire que Netanyahou est un criminel de guerre. On a des crimes de guerre.
Mais attends, il y a un mandat d'arrêt international.
D'accord, il n'a pas été condamné. Hitler non plus n'a pas été condamné.
Ouais, mais il s'est suicidé.
Ah, bah oui, il s'est suicidé. Bah oui,
il n'a pas été condamné. Non, mais je te rappelle, quand même.
Il y a eu Nuremberg quand même.
Je pense qu'il y a quand même Nuremberg. Après, je ne soutiens pas Netanyahou. Attention, je n'ai jamais dit. En fait, c'est votre problème. En fait, vous êtes complètement. Vous avez des
positions
complètement radicales qui fait qu'en fin de compte, moi, je tiens un discours.
Nous, on déplore le génocide. Nous, on déplore le génocide. Pas toi.
Vous êtes dans le relativisme.
Vous êtes dans le relativisme.
On regarde du droit international.
Ça serait bien que les auditeurs
juste pour aller dans son sens. Actuellement, certes, il y a des
meurtres.
Pour l'instant, il n'est pas encore condamné, Netanyahou. Mais je pense qu'aussi, il y a une démarche qui est quand même très intéressante à suivre. C'est celle de la rapporteure spéciale de l'ONU, qui est Francesca Albanese, qui a sorti un document d'une trentaine de pages sur lequel la liste.
On devait en parler.
Oui, on va en parler.
Une soixantaine de sociétés qui ont gagné de l'argent avec le drame qui se passe à Gaza. Ouais. Et ça me fait rappeler un petit peu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, lors du procès de Nuremberg. on a certes
ont profité, tout simplement.
Profité, c'est ça, on profiter. A aussi confronté.
Qu'est-ce qu'il y a
aussi condamné.
Non, non, je suis complètement d'accord avec lui, mais bon, après, la rapporteure spéciale, moi j'ai eu son rapport, il est très à charge. Hein. Ouais. Sur Israël,
à juste titre.
Mais il ne faut pas oublier, en fait.
Et qu'est-ce qu'on pourrait décharger à Israël, en fait.
Il y a quelques semaines,
mais c'est même pas Israël, c'est Netanyahou.
Contrôlé par un lobby juif. Alors, excusez-moi.
Allez, on relance.
Il y a quand même beaucoup de personnes.
Le débat continue. Non, mais on reviendra sur la question, évidemment, sur le conflit en permanence. C'est quasi quotidien ici même. Merci à vous, merci à Abdeslam Itach, les écologistes. Merci à Augustin Vargue. Aujourd'hui, il était.
Il était en forme.
L'entrepreneur, là, il était. Merci à Maître David Libeskind. Merci à Hassan Ben Barek, le président du collectif de banlieue. Merci à Solal à la réalisation. Passez un très, très bon week-end. Si vous partez en vacances, passez de très bonnes vacances, mais surtout prudence à vous. Milan Edman, ce soir, eh bien, il vous attend à 20h précise, lundi avec autant de plaisir, mais surtout.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante en ce vendredi 4 juillet. Oui, on est ensemble avec vous, chers auditeurs et auditrices, rien que pour vous, durant justement 2h jusqu'à 22h pour aborder l'actualité sport de la journée et aussi de ces derniers jours. Et au programme de cette émission, on va parler de quoi ? On va parler, tranquillement, de ce Paris Saint-Germain versus Bayern Munich. Et oui, dès demain, samedi 5 juillet, 18h pétante, horaire française, le PSG rencontrera sur cette première édition de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis les Bavarois, le Bayern Munich de compagnie. Rien que pour vous, on va en parler, ça sera l'avant-match sur cette antenne, avec toute l'équipe de Time Sport qui m'accompagne jusqu'à 22h. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Et d'ailleurs, on va aborder le cas aussi de ces clubs qui disparaissent. Ah ben oui, on a abordé les licences, on va revenir peut-être concernant ce football amateur, mais on a des clubs professionnels, on ne comprend plus rien avec leur budget qui dégringole. On va en parler avec toute l'équipe ce soir, mais aussi vous, les auditeurs, les auditrices de Beurre FM. Et on aura, comme chaque vendredi soir, bon, on a l'absence de Karim malheureusement ce soir, mais il nous écoute et on pense fortement à lui. On aura les comptes de Moha. Voilà, pour vous, on ne sait pas où Moha va nous emmener encore une fois, peut-être dans des stades, peut-être avec des supporters, supportrices, peut-être avec des joueurs, des entraîneurs, voire des présidents mythiques. Le 0153 48 3000 pour réagir au débat du jour. PSG versus Bayern, qui est le favori de la rencontre de ce quart de finale qu'on aura demain à partir de 18h. Allez, sans plus tarder, on va présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir.
Sport, le ras-le-bol.
Allez, ce soir, on est accompagné d'Alister sur ce plateau. Voilà, on lui passe le petit coucou. Il nous accompagne jusqu'à 22h. On sera avec Moha, sans oublier le coach Tolé qui sera avec nous. Eh bien, oui, jusqu'à 22h. Et notre Wahib qui habite juste à côté, mais qui est toujours en retard. Va savoir pourquoi. Il a une trottinette et justement, je crois qu'elle a l'eau, cette trottinette. On va même respecter l'eau parce que l'eau, ça va plus vite que la trottinette. On est avec aussi ce soir notre Ryan, on a reconnu son fameux sourire. Ryan, eh oui, son accent chantonnant.
Avec ce soleil, ça nous fait tant plaisir. Exactement.
Tu vas bien, Ryan?
Ça va. Bah écoute, franchement, encore une fois, très heureux. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Je ne viens plus pendant deux semaines. Ça me fait plaisir à chaque fois que je reviens ici. Voilà, il est 20h03. J'embrasse tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui sont seules. Je les embrasse tous un par une. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, je vous embrasse tous et on va passer une très très belle soirée, en tout cas soirée football avec vous, les auditeurs, les auditrices, notre bilan national aussi, présent.
On est là, on est présent. Eh ben oui, c'est Greg qui nous passe le bonjour, qui te passe le bonjour, Ryan, et qui nous dit Wahib, il vient en moonwalk. Voilà, j'ai pas compris, mais en tout cas, c'est assez sympa. Michael Jackson.
Comme ça, il serait plus rapide.
Serge est avec nous. Comment ça va, Serge?
Ah, ça va très bien, ça va très très bien. Ça faisait un petit moment là, un peu sous l'eau en ce moment, beaucoup beaucoup de travail.
Ah ben toi, tu es sous l'eau, moi je suis dans les abysses.
Ah ben ça, force.
Vraiment, force. Ah ben ouais, force. Comme je disais Mohamed, j'ai plus la force. Je jure, il y a des messages, ça fait plus des 440 messages, je sais même plus. Ouais. Vas-y, vas-y.
Ah, c'est
ouais,
pour ça alors.
Non,
ah,
bah, faut plus ouvrir.
Faut plus ouvrir. Mieux, ah, oui, il y a des messages, je crois qu'il y a 4 chiffres dedans. C'est pas des mails, hein. Vraiment. Il faut ouvrir, il faut répondre à tout le monde. En tout cas, il est avec nous, Serge. Tranquillement.
Ouais.
Hein,
ouais,
Serge.
Tranquillement.
C'est ça.
Ça va,
peut-être un petit mot, Serge.
Hâte de voir un peu.
Ouais.
De quoi on va parler. Bon, on va encore parler du Paris Saint-Germain parce qu'on
parler...
écoute quand même entre
ouais. autres. Ouais, mais c'est super. On va parler du Paris Saint-Germain, mais peut-être ça te tient à cœur. C'est concernant ce qui s'est passé, ce qu'on avait appris hier soir. On a dédié l'émission à Diogo Jota, justement. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est disparition tragique. Hein.
Toi qui supportes ce club, justement.
Disparition right. tragique, jeune. En plus, malheureusement, c'est son frère et lui. Donc ça fait beaucoup à digérer. Jota est un joueur très simple, toujours souriant, adoré des supporters et de ses coéquipiers, de ses coachs. C'était un bon joueur, un joueur imprévisible, très bon de la tête, un timing incroyable malgré son gabarit, bon sur tout le front de l'attaque, aussi bien à droite, dans l'axe et à gauche. Et c'était un super joueur de rotation, donc tu pouvais pas forcément le mettre titulaire, tu pouvais pas forcément le mettre remplaçant, mais dans la rotation il s'y plaignait tout bien. Donc ouais, grosse perte. Et il portait le numéro 20. Liverpool ouais. a gagné son 20e titre.
On l'a annoncé hier, il l'a enlevé.
Donc, ouais, c'est ça, il l'a enlevé. Donc, ouais. pour lui rendre hommage, donc c'est une très bonne chose.
Mais bravo aux Reds de Liverpool, justement. Solal à la réalisation qu'on retrouve. Bonsoir, Solal.
Voilà, c'est là, Tucci. J'espère que vous allez bien. Très heureux d'être à Beurre FM, 20h, 22h. Time Sport, tout simplement sur les ondes, chers amis. On vous attend au standard 01 53 48 3000. Et je suis heureux aujourd'hui, très très heureux, les amis. Pourquoi va savoir? Eh ben, je vais vous le dire. C'est parce que Bilal, il porte un magnifique maillot du Paris Saint-Germain.
Ah, bah oui, donc, voilà. C'est super.
Donc, ça fera un plaisir.
Ah, bah oui, champion. On tient à le rappeler, Solal. Merci.
Lui,
La passe des.
Né à Paris.
Je tiens à le rappeler. Oui, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe sur cette édition 2024-2025. Ah ben oui, Paris est champion d'Europe. Et, voilà, sur le toit d'Europe, Paris.
J'ai cru comprendre qu'il y a, il y a un autre membre de l'équipe qui arrive avec un maillot du Paris Saint-Germain, c'est Claude Tollet.
Ah ben le coach Tollet, on a l'habitude. Il vient de Vladivostok, là.
Son maillot 2009 du Paris Saint-Germain.
Son train vient d'arriver du côté de Gare d'Austerlitz.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive en retard, le Claude.
Ryan.
Un petit mot, bien sûr, un petit mot sur Diogo Jota, effectivement. Qui c'est un joueur que j'apprécie plus particulièrement, passé par Porto et Wolverhampton. Voilà, c'est tragique, comme l'a dit Serge. Je vais faire très court parce qu'on en a, vous en avez parlé hier et vous en avez très très bien parlé.
Ouais.
Mais voilà, faut penser à sa famille, à ses parents aussi qui perdent deux fils. Hein, faut le dire. Une femme qui a perdu un mari avec trois enfants en bas âge. Très compliqué pour la famille. Et puis repose en paix, Diogo Jota, tout simplement.
Ouais. Justement, on lui avait dédié l'émission hier soir et on pense fortement à lui aussi, à l'esprit qui est cet esprit du football mondial. Voilà, pour les supporters, les supportrices à travers le monde, les supporters de Liverpool, mais pas que aussi, des Lusitanos de la sélection portugaise. Le coach Tolé nous a rejoint avec Wahé. Bonsoir le coach, comment ça va?
Excellent, impeccable, bonsoir tout le monde.
Ça va, tranquillement?
Très bien.
Ça va, nous aussi. Ça nous fait tant plaisir de t'avoir dans cette émission. On attend aussi Brice, on l'a pas encore vu, aperçu, Brice, mais Wahib est bien là.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être sur ce beau plateau avec divers journalistes qui m'ont fait rêver tout au long de cette saison. Un Marseillais, Liverpool, supporter de Liverpool et Tottenham, un vrai Marseillais, un autre Marseillais, le présentateur est Marseillais et celui à la réalisation est parisien.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Les gars, laissez-le, il va peut-être nous inviter au resto ce soir. Vas-y,
je vais regarder le poche rapidement si j'ai assez. Voilà. On est ravis d'être avec tout le monde. Il y a des beaux sujets. Parler de cette actualité du sport avec toi, Bilal, et toute cette équipe.
Ouais, mais justement, tu me parles de Marseille. Moi, je tiens à rappeler le pari perdu par notre réalisateur Solal, qui devait porter un maillot de l'Olympique de Marseille, selon notre Didier Kim, qu'on peut retrouver tous les jours dans la matinale de Beurre FM.
Ce qui est super marrant, c'est qu'il a eu tout le ramadan pour y penser à donner un maillot. J'ai perdu le pari vers le début du mois. Et le premier matin, je me me suis dit, bon, allez, je vais voir s'il a ramené. Il a pas ramené. Je lui ai rappelé. Je lui ai dit, c'est quand même fou.
Pour un Parisien
de rappeler à Marseille de ramener un maillot. Le deuxième jour, je lui ai rappelé. Après, je me suis dit, bon, allez, je vais faire profil bas parce que là, à ce point-là, je vais bien m'en sortir. Didier Kim, j'attends toujours le maillot.
Il va te le ramener.
Mais je crois qu'il y a une date de péremption. C'est là que je vais plus le porter.
Il va te le ramener, le maillot. Attention, c'est ce Paris Saint-Germain, justement, qui rencontre dès demain. Eh ben voilà, le Bayern Munich, quart de finale de cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Eh ben les Parisiens sont là, sont prêts. Ouais.
Ils sont prêts pour une dualité, l'un des premiers tests de cette Coupe du Monde des clubs dans leur histoire, mis à part l'Atlético Madrid. Mais ils sont prêts dans une mesure où ils vont essayer d'aller chercher quelque chose de fort tactiquement pour aller bousculer un Bayern Munich qui se doit de pouvoir se racheter face à une équipe parisienne qui est championne d'Europe, qui a su montrer toute sa force physique et psychologique durant toute la compétition en Ligue des Champions. Donc oui, ce Bayern Munich sera présent, mais ce Bayern Munich va devoir être chirurgical devant les buts, parce qu'en face il y a de gros adversités avec Pacho et Marquinhos qui sont en ce moment peut-être l'une des paires en défense, l'une des meilleures au monde. Donc face à Harry Kane, ça peut être intéressant de pouvoir voir de belles individualités. Après, moi, là, dans un second temps, je voudrais parler de en fait l'aspect physique qu'il peut y avoir dans ce match,
ouais.
Où peut-être que dans une première mi-temps ils vont peut-être un peu plus se neutraliser, calmer le jeu, et peut-être en deuxième mi-temps accélérer le rythme, ou bien l'inverse, hein. Mais ça ne sera pas un match où il y aura 90 minutes d'intensité au vu des saisons très longues des joueurs sur le football européen. Donc à voir quel rythme on va pouvoir assister à ce match de demain.
Le rythme, justement, le rythme avec toi, Serge, de demain, PSG-Bayern. Oh, quart de finale.
Je pense que, ouais, comme il a dit, ouais, le rythme ne sera pas forcément élevé. Il joue à midi, c'est ça ? De mémoire. Donc, bon.
Ouais, parce que ça donne 18h, ça doit être midi, ça doit être. Ouais, c'est ça. Midi, 13h, voilà, on est en.
Le soleil tape fort, il est à son maximum. Je pense qu'ils vont gérer, et puis même pour les organismes, l'idée c'est de. Soit Paris va faire une mi-temps, ça peut être la première comme ça peut être la deuxième, ils vont vouloir tuer le match rapidement.
Ouais.
Soit il y aura une mi-temps où ça va jauger, la deuxième, bon, ils vont accélérer un petit peu. Après, à voir aussi ce que va proposer le Bayern. Parce que Bayern peut proposer, peut surprendre éventuellement, je pense pas, mais bon, peut surprendre, c'est un match de foot, tout reste possible. Donc à voir. Mais je pense que le fait de jouer à midi pour les organismes, même s'ils sont là-bas depuis déjà 2 semaines, c'est quand même dur. C'est quand même très très dur. Le jet lag aussi peut jouer au bout d'un certain temps.
Ouais.
Donc à voir ce que ça va donner. Là, je suis pas inquiet pour parler.
J'ai une petite stat.
Ouais, vas-y, Ryan.
Ça intéresse. Le PSG, la dernière victoire du PSG face au Bayern de Munich, date de 2021. Voilà, lors d'une victoire 3-2 face au Bayern. Après, concernant, on va dire, ce match, moi, j'ai pas forcément une attente particulière. Là où effectivement je suis un peu perplexe, c'est au vu de cette compétition qui pour moi fatigue les joueurs plus qu'autre chose. Faut dire ce qu'il y a, notamment Achraf Hakimi qui sera bien sûr
Ballon d'Or.
Je l'ai dit la dernière fois, pour moi c'est avec le Ballon d'Or. Hakimi pour moi c'est il y a aucune hésitation sur ça. Hakimi pour moi doit être le Ballon d'Or cette année, cette saison, pour la saison qu'il fait.
Le Ballon d'Or africain?
Non, Ballon d'Or non. Moi t'es là Ballon d'Or classique.
Ah, je croyais que tu me parlais du Ballon d'Or africain. Ça aussi,
il n'y a pas de souci. Ça aussi, on lui donne tous les Ballons d'Or si on veut. On va lui donner le Ballon d'Or intergalaxie aussi.
Galactique, Ballon d'Or. Didou qui l'avait gagné, je crois, dans le football.
C'est ça, exactement. Non, mais pour faire court, c'est vrai que cette compétition, pour moi, cuit les joueurs, notamment en l'occurrence Achraf Hakimi, qui entame, je crois, il va entamer quasiment son 50e match cette saison. Je trouve que c'est inhumain. Il y a aussi contre ils vont affronter Tottenham aussi, et le trophée des champions aussi au mois de décembre. Ouais. Il y a la CAN aussi qui arrive cette année. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Il va enchaîner, je pense, peut-être une 150 matchs, je pense, en comptabilisant cette saison et la saison prochaine. Allez, peut-être une centaine de matchs, j'abuse, mais peut-être une centaine de matchs.
Ouais.
Et pour moi, bon, c'est vraiment mon avis sur la compétition. Voilà. Après, effectivement, sur le match, on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'une attente particulière au vu des dernières performances du PSG, ça s'annonce effectivement assez chaud.
Là, c'est chaud. PSG Bayern.
Oui, non, mais pour revenir à ce que tu dis, très intéressant, c'est Ryan, c'est dans la gestion en fait de comment ils vont pouvoir manager et gérer Achraf Hakimi qui enchaîne les matchs. Et Luis Enrique, il y a eu des questions qui ont été établies, qui ont été mises en place lors de la conférence de presse avant la compétition et même pendant la compétition. Et il parlait de recrues qui pourraient arriver après la Coupe du Monde des clubs. Et ça, c'est l'une des priorités. Nasser Al-Khelaïfi a été assez évasif sur ses recrues. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va prendre une doublure pour Achraf Hakimi. C'est super important pour lui et pour le club. Et puis, on parlait de Zabirani qui, lui, peut aussi jouer sur un côté dans une relance à 3. Le Paris Saint-Germain l'a beaucoup fait cette année où Mendes, des fois, revenait à 3 ou même Hakimi. Bon, Hakimi était plus offensif, mais voilà. Donc, à voir si Zabirani pourra compenser le manque de Hakimi sur le plan offensif ou un autre latéral. Il y a Thiago Santos qui est sur le marché, qui n'est pas si cher que ça, hein, c'est moins de 20 millions. Le Paris Saint-Germain, pourquoi pas tenter, même s'il revient d'une longue blessure cette saison, à aller chercher une doublure comme ça, pour ce Paris Saint-Germain, ça peut être intéressant. Donc je pense que le début de saison, il ne va pas beaucoup jouer en Ligue 1. Je pense qu'ils vont quand même le préserver.
Alors, le coach de Tolé, on te retrouve avant la pause.
Je vous ai écouté, ça ne concerne pas qu'Achraf Hakimi, qui bien sûr a totalisé plus de 50 matchs, et c'est juste trop. C'est l'ensemble du football qui est en danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'argent prime sur le sport, c'est-à-dire que tu as des matchs tout le temps. Il y a des matchs tout le temps, il n'y a pas d'arrêt. À partir du moment où les joueurs pros, même si ce sont des joueurs pros, ont besoin de repos, n'ont pas de repos, n'ont pas de moyens de récupération, que ce soit physique, mental, Hakimi ou un autre joueur, vous allez voir qu'on va se retrouver à avoir une cascade de blessures.
Mais on en parlait justement.
Ça peut arriver au mois d'août, dans un an, deux ans, ça va être une catastrophe.
Ah ouais.
Moi, personnellement, j'ai toujours suivi le football, mais là, honnêtement, il y en a trop. Franchement,
trop
moi, je vois pas. Moi, ouais. Je vois pas comment.
Benjamin le disait hier soir.
Mon avis, un perso, hein, comment tu peux. Il n'y a pas d'attente particulière, parce que de toute façon, il y a tellement de matchs, tellement d'affiches. Alors, c'est très bien pour les passionnés, pour les stats et tout. Mais là, je vois pas le truc. J'arrive pas à me retrouver dans ce football d'aujourd'hui.
Alors, faut faire attention,
il y a trop de matchs.
On va revenir.
Quand je reviens notamment sur l'aspect de, alors c'est pas le sujet, mais des coupes européennes et que, rien ne remplace les matchs aller-retour où là, justement, là, t'as des stats, on a des matchs juste de fou et tout. Là, ok, mais là, pour moi, trop de matchs.
On va revenir avec le coach Atollet et toutes les équipes de Tom Sport concernant le PSG qui rencontre le Bayern Munich demain, samedi 5 juillet, à partir de 18h heure française.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, vous êtes à l'écoute de cette émission qui est Time Sport jusqu'à 22h avec, allez, autour de cette table qui m'accompagne, on a Rayan, on a les comptes de Moha qui arrivent à grands pas dans cette émission. On a aussi le coach Tolé qui fait son grand retour. Eh ben oui, en cette fin de saison avec Brice, les retrouvailles, ça fait longtemps, Brice. Il est là à peu près, ça fait, même 8 ans. Voilà, la saison prochaine, on entamera la 9e saison de cette émission. Rien. Et on vous promet aussi d'autres horaires pour être au plus près de l'action et des événements concernant la planète sport. Avec Moha, sans oublier notre Serge, le plus Reds des Français. On est ensemble, 0153483000 avec Solal. Allez, c'est parti.
Time Sport. La parole des sociaux.
Nous t'écoutons, Moha. Le PSG est-il prêt? Ils sont prêts selon Wahib.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Le PSG est prêt physiquement, je pense. On avait des petits doutes face à Botafogo. On avait l'impression que ça commençait à cramer un peu. Mais bon, sur le match juste après, face à Seattle, on a été un peu plus rassurés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être plus l'état mental des joueurs. On sait que le Paris Saint-Germain est composé.
Il en parlait, le coach.
En plus de ça, il y a bien sûr que la fatigue mentale existe dans le sport et c'est un sujet dont on parle que trop peu malheureusement, mais aussi une fatigue mentale qui peut être exacerbée pour nos joueurs portugais qui ont perdu leur compatriote Diogo Jota il y a de ça quelques jours. Donc à voir si le Paris Saint-Germain va peut-être les mettre de côté, peut-être ne pas exposer ces joueurs qui viennent de vivre un drame, de perdre un compagnon, un frère aussi tôt. Donc c'est ce qui m'inquiète, voir s'ils pourront jouer ou pas. Parce qu'on le sait tous, hein, y a rien de plus important que la vie et la santé. Ça n'a pas d'importance face au football. Mais à voir si ça va impacter le match ou non, je pense pas. C'est peut-être le cas. On a vu des exemples un peu similaires pour le Borussia Dortmund, je me souviens bien, qui avait vécu, dans le bus, avait vécu une attaque terroriste juste avant un match de Ligue des Champions. On avait vu ces joueurs qui étaient complètement désarçonnés lors de leur match. C'était face à l'Atlético de Madrid, si je me souviens bien. Donc à voir si cette pression mentale peut s'ajouter lors de ce match-là, parce que moi je rejoins totalement ce qu'a dit Ryan, c'est des matchs en trop, des matchs en plus, ouais, qui n'ont pas forcément d'utilité. On n'arrête pas de remarquer les infrastructures.
Mathieu le disait aussi hier, ça.
Les infrastructures ne sont pas du tout adaptées, les joueurs sont.
De beaux stades, quand même.
Non, ils sont très beaux les stades, mais ils ne sont pas faits pour jouer des compétitions en plein été. C'est pour ça que la NBA commence en octobre et que la saison de. Ouais. La saison de foot américain de NFL commence elle aussi et dure que 18 matchs. Donc, c'est pas du tout fait pour une saison de football. À voir si ça va impacter les joueurs, sinon on va encore avoir des matchs en quart, demi et finale avec 47 cooling breaks, parce qu'on voit bien que les joueurs peuvent pas jouer dans des conditions pareilles. Ouais. Ryan parlait d'Ashraf Hakimi, c'est pas le seul, il y a plein de joueurs dans cet état-là, dans cette fatigue-là. C'est juste la différence avec Ashraf Hakimi, c'est que depuis la CAN, il a pas arrêté de jouer. Donc, on est sur une plus grosse saison cumulée que Pedri lorsqu'il se fait les ligaments croisés. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça n'affecte pas physiquement les joueurs. Par contre, dans la qualité de jeu, c'est une compétition qui est plein de grands clubs, peu importe le continent. Donc tous les clubs donnent le maximum. On a vu les clubs africains diapason de la compétition. On a vu les clubs sud-américains, brésiliens surtout, surprendre à chaque fois toutes les équipes. À voir si les joueurs vont quand même comprendre qu'il faut se calmer un peu. Mais là, malheureusement, la compétitivité, qui est quelque chose de magnifique, commence peut-être à prendre le dessus sur la force physique et mentale.
On doit vouloir gagner, hein, ce niveau-là.
Évidemment,
Solal, une réaction avec Ryan aussi.
J'ai une question à vous poser, parce que c'est vrai que je suis curieux et j'ai pas forcément toutes les réponses par rapport à ça. Messieurs, est-ce que vous connaissez une équipe qui a remporté la Ligue des Champions sans avoir aucun joueur blessé à l'infirmerie?
Bah c'est ce que j'ai.
En fait, j'étais en train de réfléchir finis sur ça et après, on ira un peu plus loin dans la question. Quand on regarde ce PSG là, alors oui, il y a une excellence au niveau tactique, une excellence dans l'impression qu'il laisse aux autres clubs mondiaux, j'ai envie de dire. Mais maintenant, j'ai aucun autre club en tête qui a fini une saison et remporté en plus la Ligue des Champions avec à l'infirmerie que des souris et des cafards.
Je pense au Real Madrid dans les années les Zidane. J'ai pas comme ça de. Tu vois,
Il finissait avec 93.
La période où Zidane fait les trois Ligues des Champions, de mémoire, c'est quasiment les équipes types qu'il a eues. Il a aligné quasiment les meilleurs joueurs.
Ouais, je crois que j'en ai une. C'est Manchester United 99, peut-être. Il y avait tout, le trio. Cole, York.
Après, ils ont une suspension.
Ouais.
Ils ont Roy Keane qui joue pas la finale.
Roy Keane,
c'est
Marseille avait tous les joueurs sauf Olmeta, je crois.
Ricky Butt, je crois qu'il joue la finale.
Ouais, pour en revenir à ce que tu dis après.
Intéressant sur là.
C'était il y avait d'autres, il y avait pas autant de matchs aussi à l'époque de l'OM.
C'est ça.
La remporte, il y a que Olmeta qui revenait de la jambe cassée, sinon ils avaient tous leurs joueurs. Mais il n'y avait pas le même, c'était pas du tout le même.
C'était pas le
même nombre de matchs. Ouais, surtout. La cadence était différente.
Là où je rejoins un peu sur là, c'est qu'effectivement en une saison, on a rarement vu un PSG en une saison aussi complet. C'est vrai qu'en une saison, pas forcément uniquement pendant la finale de la Ligue des Champions, mais pendant la saison, c'est vrai que d'habitude, voilà, c'est Marquinhos qui se blesse, Neymar, on voyait des Mbappé qui se blessait, des Maxwell. Mais là, c'est
même
vrai que.
Kimpembe est revenu.
Et même Kimpembe était revenu et qui était aussi sur la feuille de match de la finale, pour la petite anecdote, était sur la finale parce que Luis Enrique voulait que Kimpembe la gagne. Donc il a mis exprès Kimpembe. Mais pour revenir, sur ce que Mohad disait, effectivement, là où moi je m'inquiète un peu, c'est effectivement comme tu disais, si les Portugais, les trois Portugais ne sont pas là pendant ce match-là, moi ça m'inquiéterait un peu plus déjà dans un sens où effectivement Vitinha, João Neves
et Nuno Mendes
et aussi Gonzalo Ramos, effectivement, mais les trois pour moi c'est les trois les plus importants. Pour moi les trois ce sont les plus importants et c'est vrai que si on les perd ces trois-là, ça risque d'être un peu plus compliqué.
On remonte avec toi, Fabrice.
Une populaire opinion, mais je l'ai dit la semaine dernière ici.
Ouais.
De toute façon, en fait, est-ce que vraiment c'est important de la gagner cette coupe? Ça nous ferait plaisir.
Ouais, première édition.
Mais en vrai.
Merci. Ouais.
Non, mais c'est, t'as raison. D'un point de vue financier, quand t'as tué derrière, est-ce que vraiment t'as besoin de ça?
Ouais.
Pour le narratif, parce que derrière il y a le ballon d'or, là d'accord, effectivement, ça me ferait plaisir qu'on la gagne.
Bon, alors là, il sera parisien si il la gagne.
Et puis le ballon d'or, parce que t'as peut-être envie aussi que Dembélé aille au bout et qu'on mette fin en fait au débat Dembélé Yamal. En revanche, l'année prochaine, il y a la vraie Coupe du Monde.
Oui.
Alors désolé pour ceux qui sont fans de la Coupe du Monde des clubs, mais la vraie Coupe du Monde, la vraie des nations, qui en plus aura 48 équipes, qui jouera sur un continent entier. Canada, Mexique, États-Unis. Il y aura donc un match en plus. La saison, pareil, va être écourtée. Donc, honnêtement, tes fans du PSG étaient éliminés. C'est pas dramatique. T'as gagné la C1, t'as fait le triplé. Championnat, à jamais les premiers en France à faire le triplé. À jamais les premiers à mettre 5-0 en finale.
C'est vrai.
Tu gagnes ça. Est-ce que t'as besoin derrière encore de dire je vais aller gagner ce trophée en bois? Parce que honnêtement, je suis pas sûr que.
C'est un trophée FIFA. Dans 12 ans, il est pas en bois, Brice.
Je suis pas sûr. Non, mais je suis pas sûr qu'il aura le même prestige.
Là, c'est un cinglupier. Avec.
Attention.
Trophée des champions.
À jamais les premiers, c'est une expression d'un seul club.
Après, je suis même pas sûr qu'il y aura une deuxième édition.
Ah oui, déjà. Moi je crois qu'elle sera.
Parce que d'un point de vue financier, là il a été soutenu par les Saoudiens. Ils investissent à perte.
Ah, mais tu sais que.
Il y en a qui ont l'habitude, parce que là,
le délire, c'est qu'ils sont en mode il faut qu'on investisse, sachant qu'il y a la Coupe du Monde là, qui arrive dans quelques années. Ils disent il faut que ce soit rentable. Donc il faut qu'ils récupèrent quand même quelque chose. Là, avec cette Coupe du Monde là, ils récupèrent rien.
En fait, oui, mais après, ça, tu peux très bien investir au début, et puis après, tu vois en fait à long terme ce que tu as comme revenu. Là où c'est difficile de prévoir ça, c'est que déjà Infantino, lui, il vise déjà une Coupe du Monde à 48 dans 4 ans. Mais là où faut. En fait, le prestige d'une compétition, elle repose aussi sur les équipes qui vont la gagner. Pourquoi la C1 aussi a un tel prestige? Tu regardes les 5 premiers vainqueurs, c'est qui? C'est le Real. Si là, par exemple, tu te retrouves avec une finale, imaginons, Real, dans le côté du tableau, c'est Chelsea. T'as une finale extraordinaire, je sais pas, un 4-3, Mbappé qui m'a un triplé, ou je sais pas, un truc comme ça. Et que t'as des images qui marquent. Tu peux installer la compétition dans l'imaginaire collectif. La Coupe du Monde des Nations, pourquoi en fait la Coupe du Monde, elle a une telle aura? Parce que quand tu penses Coupe du Monde, tu penses à quoi? Tu penses à Pelé, tu penses à Maradona, tu penses à des matchs incroyables, aux meilleurs joueurs, à la meilleure des scènes. Donc, on n'est pas encore à la fin de l'histoire. Si tu as une finale extraordinaire, peut-être que le narratif peut se faire. Et notamment, je compte bien sur le Real, j'imagine bien que Florentino Pérez et tout qui ont fait le chou blanc, ils vont te raconter qu'ils ont fait une saison extraordinaire parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Donc, ce lobby-là,
les gars, il y a la Coupe du Monde, effectivement, mais n'oublions pas, encore une fois, en fin d'année, il y a la CAN aussi. C'est-à-dire que là, les clubs qui joueront demain, dans quasiment chaque équipe, on a un Africain. Dortmund, on a Guirassy. Chelsea, on a Nicolas Jackson. Nicolas Jackson. Paris Saint-Germain, Hakimi. Donc, mine de rien, il y a aussi ça qui joue. Et je me dis... C'est pour ça que cette compétition, moi j'étais le premier à taper sur les joueurs quand ils se plaignaient parce qu'ils jouaient trop de matchs, on joue trop de matchs, on joue 30 matchs, c'est pas bien, on est fatigué, on est ceci, on est cela. J'étais le premier à les taper dessus en leur disant c'est votre boulot, c'est ceci, c'est cela. Là en l'occurrence c'est totalement différent, là c'est une autre compétition, mais avant ça il y a eu la Ligue des Nations, donc pour ceux qui ont joué en plus de ça la Ligue des Nations, c'est tout aussi compliqué.
Encore des joueurs du Paris Saint-Germain.
Et là où, juste une autre petite parenthèse, on parle aussi des passionnés de foot, il ne faut surtout pas dépasser la limite du dégoût entre guillemets, c'est-à-dire qu'un vrai passionné de foot qui regarde le football aujourd'hui
ne faut
jamais dépasser le dégoût. Alors, c'est comme tout, c'est comme les émissions de télé, faut jamais en mettre tous les jours.
Vas-y,
je suis pas au stade du dégoût, mais il y a moins cette magie. Moi peut-être les seules compétitions qui me ramènent encore la magie, c'est la Ligue des Champions, mais lorsque tu passes sur les au stade des matchs aller-retour, pour moi tu encore des vrais matchs de football.
Mais cette saison, on en a vu.
L'Euro, la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Et encore la Coupe du Monde, je trouve que malheureusement, je pense que le niveau, on y reviendra dans quelques mois.
Là, ça va.
Le niveau des nations va baisser parce que, en fin de compte, il y a tellement de matchs en club, il y a tellement d'importance ailleurs que la Coupe du Monde, en termes de qualité de jeu, a pour moi moins d'impact que ce qu'on a connu.
Et t'as plus le temps de te préparer, en fait. T'as de moins en moins de temps pour préparer ton équipe.
Là,
tu n'as
plus le temps, là. Je ne sais pas comment on va faire.
Je ne suis pas forcément d'accord parce magie dans cette compétition, j'étais tout aussi dubitatif que toi, Claude, vraiment au début. Mais vraiment, je reviens encore sur l'exemple des clubs brésiliens qui n'arrêtent pas d'être surprenants, qui sont des clubs que je surcotais.
Je suis d'accord avec
vraiment
toi.
Vraiment, au début de la compétition. On parle de clubs qui arrivent à éliminer Manchester City. On parle de clubs qui arrivent à battre le champion d'Europe en titre. Et ça me rend la compétition un peu plus alléchante. Pas prestigieuse ou pas quelque chose de grandiose comme ça. Par contre, l'ancien format, où le gagnant de la C1 arrivait en quart ou en demi-finale directement.
En demi-finale directement,
là, il y avait un peu moins de surprises.
Mais tu sais quoi, moi il est maintenu le format. Mais vous savez,
c'est ça.
Il est maintenu en décembre.
Intercontinental. C'est ça.
Sauf que là, le club européen est en finale.
Le Common Ball face à l'UEFA.
Alors, en fait, de clubs européens et en finale.
Voilà.
Et t'as les autres équipes, donc ouais, la zone Afrique, Asie, tout ça, qui se font des tours préliminaires.
La CAF avec la ZA, ouais.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, en fin de saison, qui est champion du monde? C'est celui qui gagne la Coupe Intercontinentale avec le PSG, par exemple, imaginons s'il la gagne, ou si c'est le Real, ou je sais pas qui,
là,
ou Chelsea.
Tu peux la poser à Serge, justement.
Ça n'a aucun sens.
Et là, il n'y en a aucun sens. Eh ben, elle n'existera plus, cette Coupe.
Non, mais c'est vrai, dans le sens.
Il n'y a pas tant le Brice.
Trop de foot, tu le foutes. Le trop est le contraire du bien.
Exactement. Ouais,
tu vois. Et là, aujourd'hui, là, généralement, on est dans la période où, on est au mois de juillet, allez, on va se consoler avec des compétitions qu'on ne regarde jamais parce qu'il n'y a pas de foot. On a un manque de foot.
Ouais.
On est pressé que le mois d'août arrive. Là, il y aura les matchs de préparation, machin et tout. On va les regarder sans vraiment les regarder. On sait que ça compte pas. Normalement, on est dans cet état d'esprit-là. Là, aujourd'hui, on est dans un état d'esprit où on la suit sans trop la suivre de loin. Mais on va s'inquiéter surtout de ce qui va se passer dans les mois à venir avec toutes les compétitions qui arrivent. Les joueurs, dans quel état ils vont être, aussi bien physiquement, mentalement, moralement.
Ouais.
Moi, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités et qu'ils disent stop.
Ah, comment ?
Quitte à faire une grève.
Voilà la grève.
Quitte à vraiment marquer le coup, faites-le. Parce que c'est votre corps, c'est votre santé.
Ouais,
comme vous l'avez dit en NBA, il y a 4 mois de pause. Ils reprennent en octobre et ils finissent quasiment aux alentours de mai, juin, par là. Ça dépend jusqu'où la finale de play-off va.
Ouais.
En fait, pourquoi on pense pas en fait à la santé des joueurs? Tu vois, même si l'NBA, c'est pas la même, ça n'a pas le même impact. Jouer au basket et jouer au foot, c'est différent. Ouais. Mais faut penser aussi à la santé du joueur, parce que s'il n'y a pas de joueur, il n'y a plus de foot en fait.
Moi je pense qu'intérieurement ils te rejoignent, mais je pense qu'il y a tellement d'enjeux financiers.
Mais c'est ça le problème.
Je suis bien curieux de voir ce qu'il y a dans leur contrat, et je suis même persuadé que lorsque on leur dit, si on te pose la question en conférence de presse, tu réponds que ça peut être compliqué, mais en même temps on aime le foot et tout. Moi je pense que tout est déjà bien huilé, bien ficelé, et c'est tellement. Enfin, je pense que c'est compliqué, mais je pense que beaucoup pensent comme toi.
Hein. On connaît quelque chose sur ça.
Guardiola, notre fois, en conférence, quand on lui pose la question, franchement, il a fait une réponse de Normand. J'aime beaucoup les Normands.
Hein. Oui.
Ma femme est Normand.
Alors.
Non, mais il répond à côté, en fait. Et Guardiola, c'est pas. Enfin, je veux dire, généralement, il donne des réponses.
Claire.
C'est pas le mec de la langue de bois. Et là, il dit, oh bah oui, il y a une compétition, faut la jouer. Et puis quand ils sont éliminés, il dit, bah finalement, on va pouvoir se concentrer pour l'année prochaine. Donc en fait, ils sont coincés. Mais il y a une autre question derrière, par rapport à ce que tu dis. C'est que derrière les joueurs, ce que dit aussi le coach, qui demande des gros salaires? C'est les joueurs. En fait, pourquoi il y a toujours plus de pression en fait financière?
C'est ça.
Parce que la première charge pour les clubs, c'est quoi?
Alors,
c'est des masses salariales qui sont énormes. Donc si les joueurs en fait acceptaient aussi d'avoir un salaire qui soit moins important,
c'est ça.
Peut-être que derrière, ils pourraient pas se plaindre. Parce que je vais prendre un bon exemple. Notre ami Rodri. Vous vous souvenez qu'à la cérémonie du Ballon d'Or, il arrive, il est en béquille.
Alex,
et il se plaint,
ça,
Rodri. Il y a trop de matchs et machin. Moi, je me suis fait décroiser.
Kevin De Bruyne aussi.
Et Rodri, t'es content là de jouer là? Pourquoi il dit pas à Guardiola? Pourquoi il dit pas à Pep? Pep, je reviens de blessure.
On sait pas.
J'ai des ligaments croisés. Bah non, mais il jouait tranquille. Non, mais parce que derrière,
tu peux pas. Oui, mais le problème, c'est que.
Parce
Rodri,
que la qui te donne à manger, en fait, elle te donne peut-être.
Il rate une saison. Rodri rate une saison. Et on sait aujourd'hui que les joueurs, ce sont des produits. C'est-à-dire que.
Quel est le produit?
Mais
autant faire ta préparation tranquillement, revenir au mois d'août.
C'est sa cote. Les joueurs pensent à leur cote aussi, on va pas se mentir.
Ouais,
les joueurs, ce sont des produits.
Le ballon d'or aujourd'hui, c'est
le ballon d'or.
Ouais,
le
ballon d'or qui n'a pas joué depuis un an.
C'est un ballon d'or
qui n'a pas joué du tout cette saison.
Effectivement, à sa place, tu fais quoi? Tu te dis, tu vas aller jouer la coupe à Kojak, Infantino.
Ouais, c'est sympa, Kojak.
Surtout que, à sa place.
Où tu vas te remettre? Attendre le mois d'août et revenir.
Mais rappelle-toi qu'à sa place, t'as Eric Garcia aussi, qui cette saison s'est aussi révélé. Ce qui veut dire que Rodri, peut-être, pris de peur, il s'est dit, écoute, je vais me taire.
Pris de peur pour le portefeuille, peut-être.
Pris de peur aussi, bien sûr. Mais bien sûr, pour le portefeuille et pour sa place aussi.
Ouais.
Et en l'occurrence, il est élu quasiment homme de la compétition avec Manchester City.
Ouais.
Et les flops, effectivement, c'est Stones, Eric Garcia.
Tu parles là pour la Coupe.
Pour la Coupe du Monde des clubs.
Ouais,
bien sûr.
Le côté tolé rapide avant la dernière pause de la première heure.
Les joueurs sont dans une spirale. Regardez, il y a l'équipe qui a fait un magnifique reportage sur les joueurs qui sont amenés à jouer blessés. On voit les Trémoulinas. En fin de compte, il y a toute une spirale qui fait qu'il faut que tu joues parce qu'il y a un tel qui pousse derrière, mais en même temps ton corps, on va faire les infiltrations. Dimeco qui dit que lors de la finale de la Coupe des Champions en 91 contre l'Étoile de Belgrade, il joue avec un genou fracturé. Il joue avec les ligaments croisé cassé qui on l'a même pas su, c'est-à-dire qu'il a joué avec
Kaiser Beckenbauer aussi, hein.
C'est ça le problème, et tu l'as dit aussi, ce sont des marchandises des joueurs. Ce sont des marchandises à part peut-être entre 5 et 10 joueurs, que ça soit pour jouer ou pour ou sur le marché des transferts, ils doivent fermer leur bouche, et c'est comme ça. C'est le milieu. Et il parle que 20 ans, 30 ans après, lorsque Rodriguez se retrouve amputé,
il y a eu des problèmes. Malheureusement,
on se rappelle
des
problèmes. Avec Kimpembe, du coup, avec
ça, ça a marché.
C'est des exemples parmi tant d'autres.
Et même Kimpembe, avec face à Burak Yılmaz, où il fait un tacle incroyable, mais il se blesse sur ça. Et carrière quasiment terminée, en tout cas jusqu'à présent.
C'est pas que physique, ça peut être le mental aussi, parce que Robert Henke, le gardien de la Mannschaft, qui est obligé d'être sélectionné, qui va avec l'équipe nationale, et qui est obligé de jouer parce que il y a personne d'autre et qui perd sa fille dans la même période, il se suicide parce qu'il peut pas faire son deuil complètement. Ça peut avoir des conséquences, mais sur toute la vie, c'est pas uniquement l'impact sur le physique, évidemment, est visible, mais le mental, on l'oublie.
Tu fais bien de rappeler,
exactement.
On va faire une courte pause et on va revenir. C'est la dernière de cette première heure. Allez, on reviendra avec toute l'équipe de Time Sport qui m'accompagne.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et nous sommes de retour, et oui, dans la joie et la bonne humeur, c'est l'été, c'est l'heure de l'été, 20h et 38 minutes, et vous êtes à l'écoute de Beurre FM avec le coach Tolé, et aussi avec Brice, sans oublier Moha et ses fameux comptes qui arriveront en seconde partie d'émission. Voilà, sur la deuxième heure, avec aussi Ryan qui nous accompagne, Wahib, juste là, c'est notre joker de la soirée, accompagné de notre illustre British, notre Raids, c'est notre Serge qui est avec nous, le 01 53 48 3000, avec Solal à la réalisation. Allez, c'est reparti. Oui, c'est reparti concernant le Paris Saint-Germain.
Time Sport, le mode pressing.
Le PSG qui rencontrera Bayern Munich demain 18h heure française, quart de finale de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Fluminense rencontre ce soir Al Hilal, le club saoudien, avec sa performance assez incroyable et fait